cœur polaire, il s'enfuit vers le pot. La rançon du succès, c'est perdant, perdant. Quand la cité s'enflamme du flingue, il est virtuose. Mais quand tout devient calme, whisky, glaçon, névro.
Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Bonsoir et bienvenue dans Band Geek Mafia. Band Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G, 101.5 FM, en direct ou en podcast. Alors ce soir, on salue chaleureusement Anaïs, nos deux Seb, Oliver Quiz qui ne pouvait pas être là, mais on fait donc une émission en duo. Bonsoir Héloïse.
Salut.
Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, Héloïse ?
Alors, ce soir, pour mon petit retour radiophonique, je vais vous parler du ciné-concert du Seigneur des Anneaux, que j'ai pu aller voir à Nantes, et je vais aussi vous parler du spectacle de Kian Kojandi.
Super.
Et toi, de quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Alors, moi, ce soir, je vous ai préparé plusieurs petites choses. On va parler de la nouvelle série Star Trek Picard. On va parler aussi de deux sorties Blu-ray. Pour une fois on est un petit peu en décalé par rapport au cinéma et c'est pas plus mal parce que du coup on peut se faire plaisir sur les spoils. Donc on va parler de Ad Astra avec Brad Pitt et on va parler du oscarisé le film Joker. Je profite aussi de ce début d'émission pour faire une petite annonce puisque je serai en tout cas très certainement présent dans les couloirs du Angers Geek Fest les 4 et 5 avril prochains.
Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé.
Ouais. Donc c'est un festival pop culture à Angers qui aura lieu au parc des expositions. Donc on va y parler jeux vidéo, comics, cosplay, Harry Potter, high-tech, e-sport, heroic fantasy, manga, jeux de plateau. Et il y aura plein d'invités à l'appel. Donc je vous invite vraiment à y aller. C'est la première édition. Alors autant encourager l'organisation et faire venir plein de monde. Ça promet d'être vraiment très sympa. Et le prix est somme toute assez modique. Hein. Le pass de jour est à 15€. Le pass samedi à 10€ et le pass dimanche à 9€ si on les achète séparément. Donc voilà, vraiment, je vous invite à y aller. Pour commencer cette émission, la génération Y prend le pouvoir sur la programmation musicale.
Ouais.
Et on va faire une petite programmation spéciale années 90.
Pour le plaisir.
Exactement, pour le plaisir. Donc on commence avec Here Comes the Hot Stepper.
Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone pressed will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what bow you know. Touch them up and go. Cha-cha-ching-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, that's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. Dial emergency number. Still love you like that. Na 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 na. So we do it, man. Na 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 na. I'm the 90s Jack, that's it, understand. I'm the daddy of the Mac, daddy. Is a lifting God made me. Ain't no homie gon' play me. Top celebrity man. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. And
them up and go, oh-oh, cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area, still heavy like that. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Yeah, man. So what do we do? Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow, yeah. Still love it like that. Here come the hot stepper, I'm the lyrical danger. Big up the crew in the area. Still love it like that. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Still love it like that. Da-da-da-da.
C'était Here Comes the Hot Stepper sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le pont.
Exactement. Alors, Héloïse.
Alors, moi, ce soir, je vais vous parler d'un ciné-concert que j'ai fait récemment. C'était le 3 janvier. Ça se passait au Zénith de Nantes. Et avec plus de 85 musiciens et 150 choristes sur scène, le Yellow Sox Orchestra interprétait en live, en parfaite synchronisation avec la projection du film du Seigneur des Anneaux, donc le premier, La Communauté de l'Anneau. C'était une représentation unique et exceptionnelle qui a duré en tout 3h30 à peu près. Et du coup, c'était vraiment exceptionnel. Je tenais à en parler parce que déjà, c'est une émission de geek, donc parler du Seigneur des Anneaux, c'est
carrément.
Un peu la base. Et c'était vraiment exceptionnel d'avoir de pouvoir voir et entendre le tout en simultané, vraiment avec le film qui se déroule. Et vraiment, l'orchestre était exceptionnel avec les choristes qui se lèvent quand ils se mettent à chanter. C'était puissant. Ça a collé des frissons. C'était
ouais.
Vraiment super.
J'en ai rien pensé.
Ah non, c'était exceptionnel. Et du coup, dans la lancée, le Seigneur des Anneaux, les deux tours, donc le 2, sera diffusé le 19 octobre 2020, donc au Zénith de Nantes.
Alors,
en gros, alors faut prendre ta place maintenant parce que du coup, c'est déjà bien, bien réservé.
Aïe, aïe.
Et les places, en gros, elles vont de 25€ à 85€. Donc 25€, c'est vraiment des places où on voit pas trop. Là, moi, j'ai essayé de prendre milieu de gamme, mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait un peu cher. Mais c'est exceptionnel et je sais que je verrai pas deux fois dans ma vie. Et le Seigneur des Anneaux, c'est un peu le Graal pour moi, donc c'était exceptionnel.
Ouais.
Donc là, les deux tours avec tous les passages de la bataille du gouffre de Helm, avec l'orchestre, je pense que ça va être complètement fou. Donc j'ai super hâte.
Ah là là, trop bien.
Donc voilà, j'espère que je vous vends super bien le truc. Mais du coup, si vous voulez aller réserver, vous pouvez aller sur le site du Zénith de Nantes. Je crois qu'il reste quelques places. Donc pourquoi pas. Après les places peuvent être un peu chères, mais c'est vraiment une tuerie.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, la place vaut le coup finalement.
Oui, non, franchement ça vaut le coup. Sur le moment, c'est vrai que quand tu payes, tu te dis bon, c'est cher quand même pour un ciné-concert, mais c'est quand même exceptionnel de pouvoir revoir le film déjà en VO, parce que quand même, je suis puriste, donc en VO sous-titré et avec vraiment tout l'orchestre et l'intensité des choristes et tout ça, c'est vraiment vraiment génial. Donc je vous invite, si vous pouvez y aller, à y aller.
Et du coup, donc c'était l'Orchestre Symphonique de Nantes.
Non, c'était un orchestre anglais, le Yellow Sox Orchestra, ouais.
Super.
Qui interprétait.
Et donc il y avait en plus des choristes alors.
Oui.
Donc c'était vraiment énorme. Mais du coup, moi, ce que je me suis toujours posé la question, j'ai failli y aller voir un Star Wars une fois, je me voudrais toute ma vie de ne pas avoir pu y aller. Mais au final, on arrive à profiter du film.
Oui.
Qu'est-ce qu'on regarde de plus, le film ou l'orchestre?
Alors moi, honnêtement, j'ai plus regardé le film que l'orchestre, parce que l'orchestre, c'est vraiment ce qui amène le tout. Après, on était placé assez haut avec mon ami avec qui on a été. Et du coup, l'orchestre, on le voyait pas trop trop bien. Enfin, on le voyait, mais il était très loin. Donc, on avait plus tendance à regarder le film. Là, j'ai pris des places un poil plus chères pour être un peu plus près. je vais voir de coup comment ça va rendre quand je vais y aller. Est-ce que ça, je vais plus avoir envie de regarder l'orchestre du coup ou le film? Mais ouais. Après, en fait, je regarde les deux. Je pense qu'après, l'œil il s'habitue aussi. C'est comme lire des sous-titres quand on regarde en VO. En fait, je lis autant que je regarde la scène. Donc là, pour moi, la sensation, elle était un peu pareille.
D'accord.
Mais c'était vraiment exceptionnel. Rien que le début de la chanson, ça colle des frissons. Ouais. C'est vraiment super.
Ça doit, ouais.
Ah, j'ai hâte de voir la suite. Donc rendez-vous en octobre 2020. Je vous dirai comment c'était.
Ah, super. Et tu sais s'ils vont faire du coup les trois? Je suppose qu'ils vont faire, oui, le retour du roi après.
Oui, alors du coup, ils n'ont pas du tout annoncé la date. En fait, la date du 2 a été annoncée à la fin du 1. À la fin du film, ils ont dit réservez vos places tel jour. Donc du coup le jour même ça a été un vrai chaos. En fait le site a bugué au bout de 5 secondes.
Attaque par déni de service, boum.
Voilà, c'est ça. Et du coup ils ont remis notre date pour réserver. Donc on s'est un peu rué dessus avec des copains, parce que là on y va vraiment à plusieurs. J'ai tellement vendu le truc qu'on y va à 7.
Ah, trop bien.
Donc on a pu réserver les places. J'ai une copine qui l'a fait pour nous toutes. Donc elle a eu l'impression d'y laisser un loyer. Ça lui a fait mal.
C'était pas qu'une impression.
C'était pas qu'une impression, ouais. Et du coup voilà. Donc là je pense que la date pour le 3 sera annoncé le jour de diffusion du 2 en fait.
Super.
Donc ils essayent de pas trop teaser, mais je trouve ça fou.
Et il y avait des cosplayers ou pas?
Ah oui, il y en avait quelques-uns, ouais. Énorme. Ouais, il y en avait quelques-uns, c'était vraiment chouette à regarder. Donc moi c'est pas du tout le cosplay, mais c'est vraiment chouette. Et ils étaient tous un peu en plus placés hors, donc sur les places de tout devant, et je trouvais ça vraiment chouette
sympa.
Dans l'idée.
Ok. D'ailleurs, on refait une petite annonce pour le Angers Geek Fest spécial, puisque sur leur site, il me semble qu'ils ont mis qu'ils cherchaient des bénévoles un peu pour l'organisation.
Ouais, c'est chouette.
Il y aura aussi des concours de cosplay. C'est pour ça que j'en parle.
Ah non, mais le concours de cosplay, ça doit être génial. J'aimerais bien aller à la Japan Expo juste pour voir, ouais, le concours de cosplay.
Grave, ça doit être trop bien.
Ouais, mais c'est l'usine là-bas, c'est différent, je pense. Ça peut être sympa à petite échelle.
Angers Geek Fest va être beaucoup plus, à échelle beaucoup plus humaine, et à mon avis, ça va être vraiment très très sympa. Moi, j'avais fait le Paris Comics Expo comme ça, qui était vraiment très sympa. Donc, Angers Geek Fest, si vous nous écoutez, on vous attend, on va aller vous voir. Et ça promet d'être sympa en tout cas.
Ah oui, avec plaisir.
Super, merci Héloïse.
De rien.
Alors, avant de parler du film Le Joker, je vous propose un petit retour. On va introduire finalement en parlant d'un petit loser, via avec une chanson. Donc, l'artiste s'appelle Beck, la chanson s'appelle Loser, et on est toujours dans les années 90 sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Drive-by body pierce.
C'était Beck Loser sur Radio G 101.5 FM. Alors pour la suite, je vous propose de rire un petit peu. Et oui, on va parler du Joker.
Cette transition toute trouvée, magnifique.
T'as vu ça ? Formidable. Alors le Joker. Alors film oscarisé, du coup avec la prestation phénoménale de Joaquin Phoenix.
Rien d'étonnant.
Et ouais. C'était absolument époustouflant. Donc moi, je n'avais pas eu le plaisir de pouvoir aller le voir au cinéma finalement avec toutes mes pérégrinations. Mais il est sorti en Blu-ray et là, c'est la révélation.
Tu l'as vu, ça y est alors.
C'est bon.
On peut spoiler. On peut parler.
Alors du coup, je vais introduire. Parlons pas de, finalement du Joker, mais en parlant de Scorsese, puisqu'en septembre dernier, en pleine promotion de son dernier film, il expliquait au magazine Empire que les films de super-héros ne sont pas du cinéma, c'est un parc d'attractions peut-être, mais je cite, il disait « Ce n'est pas du cinéma avec des êtres humains cherchant à transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain. » Alors bon, difficile de ne pas lui donner raison et d'admettre que la plupart du temps, le plaisir qu'on attribue à ce genre, et moi j'adore ça, hein, et celui des fêtes foraines et des montagnes russes, voilà. Mais voilà, le Joker, c'est l'histoire d'un homme qui essayait de sourire malgré sa douleur, jusqu'à ce qu'un jour ce soit la douleur qui le fasse rire. Et en choisissant Joaquin Phoenix pour arracher cet effrayant sourire, le pari a été assumé jusqu'au bout. Joker ne serait pas une mascarade de plus, hein, qu'on pense aux horreurs chromatiques tentées récemment par Jared Leto, mais descendre dans les abîmes, hein, pour une mission non moins risquée, celle de la tentative d'explication psychologique d'un monstre devenu iconique. Le comédien habité est presque aussi flippant que son personnage est un habitué de ce genre d'investissement, hein, il est phénoménal Joaquin Phoenix, à l'image d'une autre trajectoire déjà très proche de Scorsese dans A Beautiful Day, qui lui avait d'ailleurs valu à l'époque le prix d'interprétation à Cannes. S'ajoute aussi du coup sa performance physique, hein, que Hollywood adore, hein, donc là c'était une maigreur effrayante, un exercice d'aliénation qui permet un travail facial impressionnant, notamment lors de ces crises de rire derrière lesquelles on voit le désarroi ou la rouge de celui, de la rage pardon, de celui qui ne les contrôle pas vraiment. C'est tellement flippant ce rire.
Il s'est beaucoup entraîné, il l'a dit en interview, qu'il s'est beaucoup entraîné, il s'est dit est-ce que ça va plaire ce rire que je mets ou pas. Et non, mais il a rien raté.
Ah non, c'est glaçant, c'est, hein, c'est glaçant. Et il avait repris d'ailleurs, j'avais lu qu'il avait repris en fait le fait que c'était une maladie mentale et il avait rencontré les gens qui en étaient atteints.
Oui, pour se s'imprégner et réussir à faire un rire qui rend bien en fait, qui fait vrai.
Ouais, complètement.
Ça a bien marché.
Bah plus que bien, ça fait du frisson à y penser. Joker, alors Joker va pas seulement donc déconcerter sur par son ton, hein, puisqu'il est résolument sombre et torturé. Ou alors son absence d'une intrigue canonique, hein, l'écriture revendique jusque dans son rythme et ses patinages l'exploration un peu jusqu'au boutiste d'un esprit fragile et au bord du gouffre. Alors on a la lenteur des entretiens, on a la répétition des motifs, hein, comme les scènes d'humiliation, les moments solitaires dans lesquels le rire surgit lui aussi, qui oblige le spectateur à cohabiter avec une personne qui n'est pas encore devenue un personnage. C'est un peu particulier ce début de film. Alors au final, l'exploration d'une solitude abyssale, c'est l'arc principal, hein. Ça va jusqu'à contaminer tout ce qui tourne autour du clown, hein, du fils, de l'amant ou du showman. Chaque interaction est explorée sous le couperet de l'incommunicabilité. Il n'arrive pas à communiquer finalement, et à chaque fois il est parasité, ne serait-ce que par son rire. Et chaque chance donnée est un clou enfoncé dans l'humiliation de celui qu'on condamne, comme tant d'autres finalement, à rester parmi le clan immense des invisibles. Donc c'est tout sauf un hasard si les tensions agitant Gotham commencent par une grève des éboueurs, qui font d'ailleurs déborder la ville de déchets. Ça nous donne un paysage malade qui métaphorise tous les laissés pour compte. Alors c'est très années 70, très 70, cette cité qui n'a jamais autant été finalement la sœur jumelle maléfique de New York, hein, qui accentue donc tout ce qui fait la trajectoire de Travis Bickle dans Taxi Driver, à savoir une maladroite tentative de reconnexion avec une société qui veut pas de lui ni de ses démons et qui va entreprendre de laver à grandes eaux. Alors la photo du film est superbe, elle redonne au film son grain de noblesse, vraiment c'est magnifique, hein, la photographie elle est époustouflante. On a une atmosphère qui est organique, crasseuse, éclairée au néon, jaunie par l'usure, hein, un monde un peu essoufflé par la saturation et ses propres inégalités. Alors la trajectoire d'Arthur, notre Joker, suit ainsi un double mouvement. On a des paliers de dépossession, sa quête identitaire se constelle de béance tandis que s'organise une gradation dans la haine. Ça, on sent que la haine monte dans le film, qui pourra faire naître un cri digne de coloré de tel gouffre. Alors, et sur ce terrain, c'est toute la thématique du show qui prend le relais. Avec les aspirations du loser à la carrière d'humoriste, on a une autre de solitude finalement qui se dessine, et la maladresse avec laquelle il construit ses tentatives de contact avec la public, associée à son rire compulsif, explore un terrain donc très rarement investi par le cinéma américain, qui est celui du malaise. Je sais pas si ça t'a fait ça, Héloïse, mais en sortant du film, on ressent une sorte de malaise finalement.
J'étais pas bien. J'arrêtais pas de réfléchir quand je suis sortie et je me suis dit waouh. En fait, il est très réaliste, ce Joker. C'est ça, je pense, qui est complètement fou et qui a fait que Joaquin Phoenix il a brillé par sa prestation, c'est qu'il est très réaliste.
Ouais.
Enfin, demain, tu me dis qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans cet état-là. Au vu de la société qui est assez anxiogène, je serais pas étonnée en fait.
C'est ça.
C'est vraiment tout ce côté-là qui ça va creuser au fond et on est pas bien en fait.
Ouais, on a tous une part de Joker là finalement.
Complètement.
Ouais. Alors la durée et la répétition déjà évoquées ici sont donc clairement exploitées pour donner la mesure des abîmes qu'il sépare de ses interlocuteurs et qui a eu des conséquences jusque sur l'audience de la salle de cinéma, gênée hein, donc dans ses réactions comme on dit tous les deux, et elle-même en proie à quelques rires nerveux embarrassés. Il est assez arrivé dans certaines salles.
Ah oui, complètement.
Ouais. Alors le show est donc dans la plupart des séquences soumis à ce point de vue interne, maladif, qui désactive le plaisir qu'il est censé prodiguer au spectateur. On n'arrive pas à se sentir bien. Et c'est là la grande audace et l'immense mérite du film à mon avis. La convergence tant attendue vers ce rôle, celui du Joker, se fera ainsi dans la douleur, notamment à la faveur de deux séquences majeures dans une rame de métro qui se font écho dans la maîtrise de la mise en scène au service d'une grande tension. Donc dans la première, la victime reçoit des coups avant que ne se déclenche le mécanisme identitaire de la vengeance, et dans la seconde, la contagion de sa mission a pris tout le wagon et menace de contaminer la ville entière. Parce que l'accès à la notoriété, remède illusoire à la dévorante solitude du Joker, du protagoniste, se fait là aussi à rebours de bien des films de cette catégorie, privilégiant toujours l'ego dans une lecture sociale et politique. Donc à la dégradation de sa personne s'adjoint une gradation très maîtrisée de la fébrilité qui agite la ville entière, qui passe des monceaux d'ordures aux émeutes. Et de ce fait, Joker est un film sur l'arrière-plan finalement. Joker parle pas tant du Joker que ce qu'il y a derrière, à savoir les bureaux des services sociaux en passe de fermer, la télévision derrière les grilles, le maquillage du clown, les sous-sols, les impasses, les coulisses où s'agitent des invisibles qui ont pour lucarne finalement que le miroir crasseux donnant sur leur détresse. En somme, on a une image, comme le disait Scorsese, d'êtres humains cherchant à transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à d'autres êtres humains, et on a vraiment là du cinéma. Donc il faudra vraiment que Scorsese donne sa chance à Joker s'il l'a pas déjà fait, tout d'abord parce qu'on est loin du film de super-héros, mais aussi parce que son appartenance à cette catégorie générique lui donne vraiment une saveur singulière. On retrouve Gotham et un certain nombre d'articulations, plus ou moins habiles, faut le dire quand même, avec une origin story de Batman. Alors avant même la figure tutélaire de Batman, du Joker, qui est un des plus grands antagonistes, donc du justicier, ce qu'a fait les beaux jours de Nolan, de Tim Burton, Scorsese, s'il était face à Joker, on pourrait dire qu'il se retrouverait devant le cinéma qu'il appelle vraiment de ses voeux, et on lui souhaite d'autant plus de voir ce film qu'il lui rappellerait très probablement deux fleurons de sa propre carrière. Alors la jubilation promise par le Joker, l'ovation dans les flammes, le souffle vengeur et la figure d'un méchant comme on adore à les craindre, ça sera pas la saveur attendue, parce qu'on va pas nous le donner de la même manière que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors la danse est bien là, ainsi qu'une certaine figure d'un génie qui cristalliserait un sens du spectacle allié à la destruction du monde, mais la trajectoire tortueuse et torturée sera surtout parvenue à montrer un monstre bien plus effrayant, qui est ce silence esselé dans lequel se bâtit le ressentiment des laissés pour compte. Et pour finir, je dirais juste que Batman finalement était le chevalier noir dont Gotham a besoin mais qu'elle ne mérite pas, alors que le Joker ainsi présenté est le vilain dont Gotham n'a pas besoin mais qu'elle mérite amplement.
C'est beau.
Ah ouais, t'as vu ça?
Cette conclusion est parfaite.
Ouais. Donc, un film vraiment à voir. Je vous conseille de vous ruer sur les DVD, les Blu-ray.
L'Oscar est mérité pour Joaquin Phoenix.
L'Oscar est plus que mérité. Par contre, obligation, à mon sens, regardez-le en VO. La prestation de Joaquin Phoenix.
Je l'ai vu en VO, c'était parfait.
Ah bah ouais, la prestation est tellement phénoménale qu'il est impératif de le voir en VO.
Oui.
Alors, sans transition, avec une petite transition quand même, on va continuer finalement sur la thématique des laissés pour compte, en restant dans la musique des années 90, avec un petit morceau des MC Solar, RMI.
J'adore cet album.
Ouais, MC Solar, toujours un grand, très grand parolier, qui a vraiment donné le ton avec cet morceau. MC Solar, RMI, sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Rien, c'est personnel, une douleur éternelle que je ne partageais qu'avec le ciel. victime de la jalousie. Taxe l'eau du Sahel juste pour remplir son jacuzzi.
Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Dans ce monde de tâches, les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent. C'est comme ordonner, coordonner. Dieu ordonne de pardonner. J'ai pardonné, donné de l'amour, que l'on ne m'a pardonné.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est la faute au bise, au bifton, fiston. Ton bise est devenu dicton.
Ce millénaire est monétaire.
Le peuple est impopulaire à croire que le vautour a une promo à l'échelle planétaire. Il justifie la traîtrise,
la fourberie.
L'économie, c'est toujours plus de loups dans la bergerie.
Est-ce les salauds qu'on adule?
Des gosses, des adultes, ça culque. Le nouveau culte est sur le globe, le catapulte. Font vendre des casquettes, des baskets.
Une religion de supermarket.
Mes neurones se bousculent. Speed est-elle des spermatopitons? Car et dans la monospace, c'était Ayrton Solar. Dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI. Mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. Les gosses pour des Pokémon. Taxes dans les portefeuilles, les Pokémon. Satan m'entend pour je vois pointer ses cornes.
Mais vous parliez de millions.
De 5 millions. Mais comme on est des milliers, combien seront humiliés? L'histoire de la rat comme la couleur du dollar.
Et comme dit Rico, y'a pas que des jambons à la tête de l'art. Sinon quoi de neuf?
Rien de neuf, rien que du bluff. J'suis veuf, avec les meufs peut-être qu'il faut se la jouer. Ouais, donner des kisses et rester pisse. Tel Jésus le Christ, dégainer le Christ. Tel 666 nous glisse aux abysses.
Et la musique,
moi je l'aime, ils veulent l'emprisonner. Imagine Cupidon lançant des flèches qui sont empoisonnées.
C'est un espace de liberté
qu'on flash dans un coin. Des clous, des clowns, de clos, des clowns, des clans, de nains, de jardin. Voilà pourquoi je me place toujours face à Ponce Pilate. Ricoche sur le beat comme sur de l'aube vers la pierre plate. Lance sourate tes psaumes sur l'étendard du gnome. Sans chrome, avec au cœur du boom
dans leur home.
Dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI. Mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. Dans les bas-fonds, rêve des fonds du FMI. Mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI.
Solar, RMI sur Radio G.
C'est fou comme cette chanson, elle est encore d'actualité alors qu'elle a 15 ans, au bas mot.
Ah, 15 ans? Elle est de 80... Oh là, bien plus, elle a plus de 20 ans.
Ah ouais?
Elle est des années 90.
Ah oui, bien donc oui. Non, bah, c'est fou comme ça, encore d'actualité.
Coup de vieux, là.
Mais oui, c'est fou.
Moi, je pense à Seb qui mange encore plus de coups de vieux que nous, du coup, pardon. Salut Seb.
Bisous.
Bisous, on t'aime beaucoup. Du coup, ils ont simplement remplacé le mot RMI par RSA maintenant.
Oui, exactement.
Ouais. Bon, on va essayer de se remotiver un petit peu, se retrouver quelque chose de sympa.
Un truc un peu plus gay quand même.
Voilà, allez. Et si je te dis Brad Pitt?
D'accord, vas-y, allez, je
vendu. Si vendu. Je te dis en plus Tommy Lee Jones?
Non mais Brad Pitt célibataire, moi dans ma tête tu sais Tommy Lee Jones il est un peu vieux par
ouais,
contre.
Ouais c'est sûr, mais en tant qu'acteur. Et puis il y a Donald Sutherland aussi qui peut être pas mal.
Ils non ouais, je prends Brad Pitt, mais je...
Ça marche.
Obligé.
Allez Brad Pitt vendu. Et ben je t'emmène du coup vers le film Ad Astra.
Ah.
Et qui est sorti en Blu-ray, qui était sorti originellement le 18 septembre 2019. Donc on a un film ici de science-fiction. Alors, film un peu contemplatif, on va en parler. Alors la science-fiction au cinéma, hein, ça sert bien souvent à entretenir une certaine illusion. celle d'une échappatoire possible grâce à l'imaginaire. Alors on s'échappe de notre réalité MC solarienne du RMI vers autre chose. C'est un peu aussi la possibilité d'une seconde chance permise par notre science et notre intelligence. On espère être sauvés. Alors là, on est sur un film de James Gray, super réalisateur que j'adore vraiment. S'il y en a qui avaient peur que James Gray soit un peu mangé par Hollywood et ses millions, et ben je vous rassure, la scène d'ouverture suffit à se rassurer, puisqu'on a quelque chose de magnifique. Ça s'ouvre sur le casque de Brad Pitt, on a un jeu d'éclairage qui est magnifique. Donc vraiment, c'est Ad Astra va vraiment être une nouvelle version des portraits torturés dont il a le secret, dans une quête du père, du sens, du délestage qui a toujours structuré son œuvre. Alors les parallèles entre ce chapitre de science-fiction et sa précédente tentative, ce qui était The Lost City of Z, okay. Je sais pas si tu as vu.
Je connais pas du tout.
Ah ben je te recommande, on en parlera dans une autre émission. Alors au cours de cette exploration, dans The Lost City of Z comme dans Ad Astra, on explore l'inconnu à l'échelle humaine. Dans The Lost City of Z, c'était une civilisation oubliée par l'un, pour l'un. Dans l'autre, Ad Astra, c'est la vie extraterrestre, on les cherche. Donc on a des mystères qui sont opaques, que le protagoniste évolue vraiment à vue dedans. Alors le lien filial, du coup, le modèle du père et le rapport à soi, ce sont vraiment les thématiques de ces films-là. Alors Ad Astra, pour revenir à la science-fiction, joue de la même ambivalence, si présente dans les derniers films de science-fiction qu'Hollywood arrive encore à proposer à l'ombre des mastodontes Marvel et Star Wars. Mmh. On avait Premier Contact, on avait First Man, on a eu Blade Runner 2049 aussi, qui même s'il était une suite d'un blockbuster, finalement, était quand même sur un ton complètement différent.
Il était magnifique aussi.
Moi j'avais adoré, ouais. Mmh. Et tous ces films-là, là,
T'as oublié le plus beau quand même.
Ah, vas-y.
Ah, Interstellar.
Interstellar, c'est vrai.
J'ai adoré.
C'est vrai. Et Interstellar, Blade Runner, Premier Contact, ils visent finalement à faire de l'infinité du cosmos l'extrapolation hyperbolique de l'aventure vertigineuse qui est toute vie sentimentale d'un individu. Hein. Ça part dans les abysses et comme ça peut monter très très haut. c'est un peu la vie du coup qui nous est dépeinte. Alors, le portrait fait de Brad Pitt dans tous les plans multiplie ainsi les cloisons. On a la cloison de son scaphandre, qui est superbe d'opacité dorée lorsqu'il se protège du soleil. On a aussi des différentes vitres et écrans, des salles souterraines, des cabines et finalement tout l'enferme. Prisonnier où qu'il aille, il est condamné à se confier pour des évaluations psychologiques constantes. Il est surveillé jusque dans sa pulsation cardiaque, faut pas qu'elle dépasse 80. Il est systématiquement dans un cadre, dans une mission, dans une combinaison, dans un secret. Et tout ça, ça forme autant de surcouches à sa propre stratégie du cloisonnement pour qu'il puisse être à la hauteur de la réputation de son père, un véritable héros, et du coup son propre fardeau à lui. Il y a une voix off en plus, qui est celle de Brad Pitt, qui se raconte lui-même, qui accompagne le récit, qui ajoute vraiment à cette suffocation. On est un peu oppressé. Il se dit je devrais ressentir quelque chose, il se l'avoue. Et après avoir reconnu qu'il se voyait lui-même depuis l'extérieur, il a l'impression d'être un étranger à lui-même. Alors, la mission qui va pouvoir fissurer cette carapace technologique et dépressive, parce que c'est vraiment ça, est donc due à une libération d'antimatière qui va déstabiliser l'équilibre fragile de la Terre. Alors le pitch, c'est que des confins de l'espace, un père qui a jamais été enterré semble envoyer des messages noirs et illisibles dans une logique psychanalytique, et ça prend ici la dimension du cosmos. En fait, on a des décharges électromagnétiques qui sont envoyées depuis Neptune, et on sait pas ce que c'est. Et là, il est convoqué par les pontes de Spacecom qui a remplacé l'armée américaine et la NASA, et c'est là que ça se lance. Alors James Gray, le réalisateur, trace sa route à visage découvert, on s'y attend. Son futur proche est étonnamment vintage, et proche dans sa photographie du First Man de Chazelle, à l'immense différence près que ce dernier réalisait, lui, un film historique. C'est jauni, c'est saturé de béton brut dans lequel l'informatique est quand même discrète. Alors la fascination du beau inhérent à la contemplation du futur technoïde à la Kubrick semble abandonnée au profit d'un rapport à la matière beaucoup plus minérale. C'est épuré, c'est très très épuré. Certains plans se rapprochent ainsi du Stalker de Tarkovsky. On a la laideur à venir du monde terrien qui est partout. On retrouve finalement les écueils de la Terre, les centres commerciaux, toutes ces choses-là, finalement, on les retrouve de la Lune à Mars. Ça fait une sorte de contagion un peu lépreuse qui fait dire d'ailleurs à Roy, à Brad Pitt, nous sommes des dévoreurs de monde. Alors, ça fait un peu penser à Oppenheimer qui disait « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Et alors, dans sa quête, le réalisateur se délaisse progressivement des formidables avancées humaines. Plus le personnage avance vers la résolution de l'histoire, moins il y a de choses, finalement. On a une réponse inversée à la spectaculaire chute initiale, puisque c'est manqué dans la bande-annonce, je vous spoil pas. Il tombe, en fait, d'un ascenseur spatial dans une chute libre de plusieurs kilomètres. Et il arrive à s'en sortir in extremis. Et donc c'est spectaculaire, c'est phénoménal, c'est grandiose comme première scène d'ouverture. Vraiment, on est scotché sur notre canapé. On a les pulsations qui montent à 200. Et puis après, tout le film, progressivement, ça va descendre. On a de l'immersion dans l'eau, on a une descente dans une capsule, on a un rapport à une pluie météorite qui est poétique. Et Roy, le personnage de Brad Pitt, affirme sa place et son corps dans un monde qu'il doit faire sien. Alors, l'action est perlée dans le film, hein, comme je disais. On a une chute, une course-poursuite qui revisite Mad Max en version complètement asthénique et lunaire. Où c'est ça, il n'y a pas de bruit. On a un thriller d'épouvante avec un singe zombie, à un moment. Une baston générale dans le cockpit d'un vaisseau où ça finit mal. Et on a l'ultime dénouement qui sont parfaitement intégrés à la dynamique générale d'introspection qui ne va jamais perdre de sa puissance. Donc, le véritable sujet du film de Ad Astra, qui est un film de science-fiction, je le répète, c'est celui du fardeau, donc celui du père dont il va devoir se charger avant de pouvoir se confronter à lui. Alors, la démarche du film, hein, se confronter au père, tout ça, c'est pas excessif d'originalité, hein. On a juste le cosmos comme réceptacle, et ça prend un petit peu les proportions d'un récit fondateur, mais pas au point d'arriver à 2001 d'Odyssée de l'espace. Mais c'est pas moins réussi, hein. James Gray qui trace sa route vers les étoiles, comme tout un chacun, dévie jamais de son cap, qui est sincère mais torturé, et épaulé du coup quand même par l'interprétation dense et secrète de Brad Pitt, qui est vraiment au sommet de sa forme. Alors toi, je t'ai vendu du Brad Pitt, tu l'as. Et finalement, on le revoit dans un rôle complètement à contre-emploi, parce que finalement, ça faisait assez longtemps qu'il n'était pas apparu à l'écran.
Oui, ça fait un petit moment, ouais.
Ouais. Et là, il sort dans ce rôle à contre-emploi, et finalement, il explore aussi avec ce film, finalement, après sa propre carrière, quoi. Il se regarde un peu lui-même. Alors, le véritable dénouement d'Ad Astra se situe du coup dans l'abéance entre ce que le personnage de Roy McBride, le personnage de Brad Pitt, essayait de vivait jusque-là en étant fermé à lui-même, et la suite où il va du coup devenir un peu comme son père. Enfin, il avait peur de devenir comme son père, et il va prendre la mesure du personnage de son père, du héros, en regardant sa chute, et va pouvoir ensuite aller de l'avant. Donc il va pouvoir le prendre par la main, le rassurer, le mettre en paix avec l'immense vide qui l'entoure autour de Neptune, et dans lequel il décidera de se dissoudre par un refus d'un constat si effrayant, puisque il y a un projet Lima où il cherchait des extraterrestres, la vie extraterrestre, et la réponse à cette recherche est finalement le miroir de la solitude du fils qui cherchait son père. Donc je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler la fin quand même.
Non, spoile pas, parce que tu me donnes envie d'aller de le voir du coup.
Et c'est un beau film. C'est un film où on sort de là, on a une période de silence et on se pose des questions sur nous-mêmes. C'est vraiment sympa. Alors, on a une science-fiction finalement qui est dénuée de tout fantastique. On voyage vers de l'antimatière, hein, qui révèle comme réponse un silence assourdissant et qui renvoie du coup aussi bien la folie de Kurtz dans The Lost City of Z qu'à la formidable obscurité de la forêt. Et ça permet enfin au fils qui désormais affronte le vide de pouvoir y dessiner sa modeste place libérée de son père. Et c'est en ça que c'est un beau film, et d'accord, tout le monde pourra y voir sa propre lecture. Donc là, je vous l'ai vendu peut-être un petit peu un télo, mais c'est réminiscence d'études tendues littéraire, mais non, c'est vraiment un film magnifique, et c'est la science-fiction à son, comme on l'aime, à savoir celle qui nous fait réfléchir et qui n'est pas un prétexte simplement à du boom boom. Voilà,
ça c'est chouette, c'est pour ça que j'avais aimé Interstellar, c'est vraiment ce côté qui fait réfléchir, ou des fois ça peut être un peu contemplatif, mais c'est agréable en fait, ouais. Ce côté qui est agréable
complètement.
Puis c'est parce qu'il est beau aussi, Interstellar, donc là tu me vends quelque chose, ça, j'espère que je serai pas déçu si je le regarde.
Eh bah écoute, et puis en arrière-plan, vous aviez la bande originale du film qui est assez contemplative, et
elle est chouette. Ouais.
J'arriverai pas à prononcer le mot de l'auteur, par contre.
Non, mais ce sera pas mieux que Hans Zimmer avec Interstellar, oui, ça, donc de toute façon.
C'est sûr.
Je suis désolée, moi, on parle de mon compositeur préféré. Voilà.
Alors, pour la suite, on va se réveiller un petit peu. Attention, chers téléspectateurs, c'est le moment de monter le son, parce que là, je vous envoie tout frais, tout beau, du Lenny Kravitz.
Ah.
Attention, are you gonna go
lui
my
non
way
plus, lui non plus, il vieillit pas. Hein.
Non,
c'est fou.
Pas du tout. Lenny Kravitz sur Bandit Mafia, Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Oh,
Kravitz.
Yeah.
Oh yeah, c'était tellement bon.
Ouais,
j'adore.
C'était parfait.
Ouais, on est super bien sur Bande Geek Mafia.
Toujours.
Sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Ah bon?
On le saura. Alors, on va continuer avec... Eh ben, je vous dis pas. Je vous dis pas. Vous allez devoir écouter. Attention.
These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Et oui, on est parti chez Star Trek. Attention, je vous parle
on
pas de
on reste dans le thème en fait de Ad Astra, hein,
exactement. Bon, avec moi, on reste souvent dans l'espace, hein, dans les étoiles. Gros fan de science-fiction de base, hein, depuis ma plus tendre enfance. Alors Star Trek, ça sera sûrement des souvenirs d'adolescence pour certains de nos auditeurs, des souvenirs d'enfance pour d'autres, ou même des rediffusions pour moi.
Oui, des rediffs, ouais.
Ouais. Donc c'était une super série dans les années 60-70. On a eu les premiers Star Trek, on a eu Star Trek The Next Generation, avec notamment Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard. Et on a eu Star Trek Deep Space Nine, il y a eu les Star Trek Voyager, enfin il y a eu plein, les
trickies,
les fans
de
Star Trek ont vraiment de quoi se mettre sous la dent.
Ouais.
Alors, on vous emmène ce soir sur Amazon Prime, hein, pour une fois c'est pas Enix. voilà, je l'ai dit, bon.
tant pis, c'est pas grave.
Tant pis, c'est pas grave, mais je fais pas de pub, hein, parce que voilà, vous pouvez la regarder par d'autres moyens. Donc il s'agit en fait du retour, grand retour de Patrick Stewart, notre professeur Xavier.
Ah,
acteur que j'adore.
Quel acteur, hein.
Ouais, il est tellement bon. Puis je sais pas, il a l'air gentil, moi je trouve, quand on le regarde. Enfin bref.
Oui.
On va vous parler de la série Picard qui est en cours de diffusion. Alors, après avoir interprété un professeur Xavier atteint de démence dans Logan, voici que Patrick Stewart, très endurant, décide de revenir à son rôle iconique, hein, non sans hésitation d'ailleurs. Alors peut-être que l'appel de la fanbase de Next Generation l'aurait finalement emporté, hein, ça l'a décidé à revenir. Alors, on a 18 ans qui se sont écoulés depuis la fin de Star Trek Nemesis en 2002. Donc, c'était le dernier film où il intervenait. Où, en fait, il s'agissait, du coup, pour lui, de mettre fin à toute une époque, puisque, du coup, il avait perdu son meilleur ami, Data, qui était un androïde. Ils avaient sauvé les Romuliens, enfin, après 31 ans de guerre avec un de leurs leaders, etc. Donc, 18 ans se sont écoulés. Jean-Luc Picard se repose dans son domaine du Château Picard, en France. Domaine viticole. Alors, il se trouve, petite parenthèse, que la cuvée Picard existe réellement. C'est un Cabernet Sauvignon. Donc, fan de Star Trek, si vous en êtes, vous pouvez vous l'acheter.
Fan de Star Trek et qui ont soif.
Exactement.
Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Voilà, et puis manger, bouger.
Ouais, exactement.
Donc, même si l'acteur commence à accuser le coup, hein, le synopsis de cette série est des plus excitants, éclipsant presque l'intrigue de Star Trek Discovery. Alors, interrogé par une journaliste sur son passé, du coup, avec les Romuliens, il a un passé avec les Romuliens, qui est une race avec laquelle l'humanité et la Fédération est entrée en conflit plusieurs fois. Donc... et dont il a organisé le sauvetage avant que leur planète Romulus ne soit détruite par une supernova. Jean-Luc Picard donc évoque Dunkerque pendant cette interview. Voilà, merci Louise.
De rien.
Et il attire l'attention d'une jeune fille qui s'appelle Dage. Et dans un rêve, juste avant de rencontrer cette jeune fille, il croise l'androïde Data, son ancien meilleur ami, qui était le second de son vaisseau, l'Enterprise, E. Et donc, cet ami lui montre qu'il avait laissé une peinture dont il va falloir retrouver l'origine. Alors, les effets visuels ont évidemment vraiment progressé depuis Next Generation. Le générique est sophistiqué, mêlant les échelles et la perception du réel. Notre œil contient-il du coup à lui seul un univers, puisque c'est tout quelque chose sur l'œil qui est vraiment bien travaillé. Alors Star Trek Picard est une des séries donc qui a été les plus attendues cette année, et parce que je vous laisse imaginer, pour ceux qui connaissent, hein, y a des super acteurs et des personnages qui reviennent, comme par exemple Seven of Nine, jouée par l'actrice Jeri Ryan, qui est la belle Borg de Star Trek Voyager. Elle a pas pris une ride, hein, à l'instar de Data, jouée par Brent Spiner, dont l'épais maquillage le met à l'abri du temps, et donc il a conservé sa dégaine un peu débonnaire. Et puis alors, que dire de Sir Patrick Stewart, qui est une nouvelle fois éblouissant dans son rôle de Jean-Luc Picard. Après plus de 20 ans depuis Star Trek La Nouvelle Génération, l'acteur britannique incarne désormais ce vieux briscard à la retraite, qui est plus proche du vieux sage que de l'homme d'action qu'il incarna jadis. Alors désormais âgé de 92 ans dans la série, alors l'acteur soufflera quant à lui sa 80e bougie cette année, Picard semble avoir accepté à son âge, jusqu'à passer son tour durant les scènes d'action haletantes, ce qui donne une grande sensation de réalisme à l'ensemble. Alors que la série porte son nom représente un bel hommage aux personnages emblématiques de la franchise, sans pour autant écarter les autres personnages qui soufflent quant à eux un vent de fraîcheur vraiment sympa sur la saga. L'intrigue se concentre autour d'une nouvelle venue, la mystérieuse Dage, qui est jouée par Isa Briones, qui se révèle avoir un lien étroit avec Jean-Luc et en particulier avec Data, donc l'ancien ami androïde, mais aussi quelques différends avec les Romuliens. Donc ces derniers sembleraient avoir depuis mixé leur technologie avec celle des Borg, qui est une race cybernétique procédant à l'assimilation systématique des autres formes de vie organique, avec une appétence particulière pour les humains et pour Picard, qui, je vous le rappelle, avait été assimilé et portait alors le nom de Locutus, et était chargé du coup de détruire la Terre et d'assimiler l'humanité. Alors contrairement à d'autres franchises, hein, Star Wars, Terminator et d'autres, Star Trek arrive à se renouveler sans cesse, et ce depuis 1966, et certains scénaristes, hein, devraient peut-être en prendre de la graine, coucou J.J. Abrams. En tout cas, ça démarre très fort, évitant pour l'instant les écueils et le côté kitsch, hein, de la série des années 90. Donc pour ça, vraiment, c'était très très sympa. C'est une série que j'aime beaucoup parce qu'on a une intrigue qui se construit à trois niveaux, entre quatre niveaux. On a Picard qui devient un électron libre qui n'est plus dans la Fédération. On ne verra pas l'Enterprise, c'est très peu probable. Et du coup, il passe par des réseaux parallèles, il y a tout un truc qui est sympa. Il y a les Romuliens qui ont été sauvés, mais qui, comme à leur habitude, aiment bien la jouer perso et la jouer intrigue et espionnage et contre-espionnage et commando d'assassins. Il y a les Borg qui sont pour le moment désactivés, mais on sait pas trop ce qu'ils vont faire, et si jamais ils se réveillent, on sait que tout le monde va y passer. Et puis il y a ce personnage de Dage, là, cet androïde, qui est vraiment particulière, car en plus c'est une sœur jumelle aussi. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est une série, si vous pouvez la regarder, mais je vous conseille d'y foncer, parce que vous soyez ancien fan de Star Trek, dans votre tendre enfance, dans votre adolescence, ou en rediffusion, ou bien si vous n'avez jamais vu Star Trek de votre vie, vous pouvez adhérer à la série, elle est facile à regarder.
C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Tu vois, j'ai pas vu beaucoup de Star Trek, j'ai vu la série qui est sortie sur Netflix, Discovery, ouais, que j'avais plutôt bien aimé. Et où du coup, tu vois, c'est pour ça qu'en plus tu me parles pas chinois, parce qu'en fait j'ai tout compris et je vois très bien de quoi tu parles. Donc je me dis, waouh, en fait moi aussi je suis une vraie geek, hein, parce que je comprends de quoi tu parles.
On est sur Bandit Mafia.
C'est ça. Mais c'est vrai que ça me pose toujours question de me dire, est-ce que je peux me lancer dans quelque chose comme Star Trek, qui est quand même un monument de la SF, sans y avoir déjà mis les pieds avant. Tu vois, c'est toujours un peu compliqué. On se dit, bah non, mais je vais rien comprendre en fait. Enfin,
je te le dis, tu peux y aller les yeux ouverts du coup, mais
oui,
tu peux y aller vraiment. C'est une série qui est vraiment accessible à n'importe quel fan. Ma femme, hein, y va sans problème, y a aucun souci, et c'est pas une geek à la base pourtant.
Désolé, c'est mon retour de grippe. Excusez-moi.
Non, rassurez-vous, chers auditeurs, ça ne se transmet pas via le micro.
Non, ça va, tout va bien.
Donc, on a vraiment une belle série.
Eh ben, ça donne envie.
Ouais. Alors, on va continuer sur notre petite programmation musicale des années 90, et on a le sourire rien que d'y penser, parce qu'on va vous passer du Black Street featuring Dr. Dre, No Diggity. C'est
J'adore
parti.
Cette chanson.
Sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
You know what? I like the play. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play that. Yo, Dre, drop the verse.
It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers.
Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground, got game by the town. Getting paid is a forte, each and every day, true play away. I can't get her out of my mind.
Wow.
I think about the girl all the time.
Wow, wow.
East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down so I like the way you work it.
No diggity,
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity,
I got to bag it up.
Bag it up, girl.
I like the way you work it.
No diggity,
I got
start to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
She's got class and style. She knowledge by the time. Baby never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers hit curves so freak. What you heard? Rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play. Just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up. I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up, babe.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up. Yeah.
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
You know that girl looks good.
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
Peeps and we roll sheep, flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't be off I'm saying Cartier.
C'était Black Street featuring Dr. Dre, No Diggity sur Band Geek Mafia sur Radio G 101.5 FM.
La radio qui fait le point.
Et oui, alors ça va être à ton tour du coup. Héloïse, alors attends, tu as un petit jingle du coup quand même.
Ah vas-y, allez, avec plaisir. Ça c'est dans Star Wars, la scène du bar.
Exactement.
Ah ça c'est chouette, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce jingle, tu
voilà,
vois.
C'était cadeau.
Voilà, ça fait longtemps que je viens, du coup je redécouvre des petits jingles, c'est cool. Donc là je vais vous parler d'un spectacle que j'ai été voir, alors... Puisque ma vie elle est intéressante, donc du coup je vais vous le dire.
Mais oui, c'est mon, mais oui.
C'est mon premier spectacle d'humour. J'ai jamais fait de spectacle d'humour. Je suis pas la meilleure cliente. Je rigole pas, je m'esclave pas hyper fort parce que du coup c'est. Je sais pas. Les trois quarts du temps ça me fait pas forcément rigoler, mais là j'ai passé une bonne soirée. Parce que c'est le titre du spectacle de Kian Kojandi.
Ah,
une bonne
bien.
Soirée. Et après, en fait, le très réussi Pulsion, qui a été créé en 2016 et qui, je le rappelle, est dispo en entier sur YouTube. Parce qu'il a, en fait, Kian Kojandi a décidé de, comment dire, de mettre à dispo, en fait, son spectacle. Et il a aussi illustré en livre son spectacle Pulsion, donc illustré par Boulet, qui est dispo aux éditions Albin Michel à partir de 15€. Et donc du coup là il a décidé de passer un nouveau spectacle, donc il est encore mieux ficelé que le précédent. Il est super drôle, donc il parle toujours de sa vie, moi c'est toujours un humour qui me fait rire. On est vraiment dans la suite de Pulsion. C'est, enfin, voilà, moi j'ai éclaté de rire. C'était super, c'était abordable en termes de tarifs. Et honnêtement, je peux juste vous dire d'y aller. En fait, je peux même pas mieux vendre Kian Kojandi que juste vous dire c'est son spectacle, c'est Kian Kojandi. Si Pulsion vous a fait rire, si Bref vous a, si la
ouais,
série sur
ouais,
Canal Plus Bref vous a fait rire, foncez, c'est juste. Vous passez juste une bonne soirée et en plus de ça, Kian Kojandi aussi a créé sa chaîne YouTube sur laquelle il partage des émissions qui s'appellent Un bon moment. Donc on reste toujours dans le même thème. Et où du coup, il parle de choses et d'autres avec divers invités. Et sa première émission, c'était avec celui qu'on entend en fond, avec Orelsan et Gringe. Et du coup, son fidèle co-auteur Navo. Donc Navo, qui a, en tout cas à Nantes, qui a assuré la première partie et qui est... hyper drôle et vraiment il me fait beaucoup rire. Et c'est vrai qu'en tant que co-auteur, les deux sont parfaits. Ils étaient déjà parfaits dans Bref, ils étaient parfaits dans Bloqué, qui était avec Auré Salé Grand,
ouais,
justement.
Ouais, super cool.
Et bah franchement, honnêtement, foncez, c'est drôle. Et puis c'est Kian Kojandi, quoi.
Ouais.
Enfin, moi je l'ai adoré dès Bref. Pulsion était une vraie perle. Et là, honnêtement, je suis pas déçue. Il reste dans la même veille, c'est même aussi drôle, voire plus drôle que Pulsion. Et toujours avec ce thème Enfin, il parle de lui, il parle de son père, de sa famille, et c'est toujours des histoires donc en tiroir, donc on passe d'une histoire à une autre, à une autre, à une autre, et tout est lié en fait, et c'est fin. Et c'est parfait en fait.
Ouais, super.
Voilà.
Et alors quand on voit finalement le showman sur scène, est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'on voit bref quand on le voit sur scène ou pas?
Oui et non. Tu le vois parce que du coup il incarnait vraiment bien la série, mais en même temps il parle d'autre chose et du coup c'est vraiment agréable à voir.
Ok.
Et du coup à la fin, je spoilerai pas, mais à la fin du spectacle, il fait une petite ref à bref.
Okay.
Qui est plutôt chouette et il utilise la chanson qu'on entend au fond Aurel San et Stromae, La pluie,
ouais.
Et du coup je trouve ça hyper drôle parce qu'à un moment il imite Aurel San sur scène et c'était hyper drôle parce que c'est vraiment ça, il parle vraiment comme ça,
ouais, super.
Avec l'accent un peu bas normand de Aurel San, c'est très très drôle.
Rappelle-nous le titre du spectacle, Héloïse.
Qui s'appelle Une bonne soirée et du coup il est en tournée actuellement, donc n'hésitez pas à aller le voir.
Ok, donc on prend ses billets pour le Langer Geek Festival, on prend ses billets pour
le ciné concert du Seigneur des Anneaux.
Et on prend ses billets pour
Kian Kojandi.
Et voilà, et on va voir.
Et ensuite on passe une bonne soirée.
Exactement, et si vous voulez passer des soirées pantoufles, et ben vous avez Ad Astra, Star Trek Picard
et le Joker.
Et le Joker, ce qui nous fait pas mal de choses.
Et pour le plaisir, j'ai pu le rencontrer, Kian, après la soirée, et c'est vraiment un mec génial qui est très humain et vraiment à l'écoute. Il m'a dédicacé son livre, on a fait une photo et il est super chouette. C'est vraiment le gars qu'on a envie d'avoir dans son entourage, tellement le mec est génial quoi.
Ok.
Très humain et très drôle.
Super. Eh ben, il est déjà presque 20h, cette émission va se terminer. C'est passé très très vite, on était super chers auditeurs de vous avoir.
Ah oui.
Avec Héloïse, on vous propose deux choses, Sayen Supakru Angela ou on se quitte sur du I Am avec Je danse le Mia. Héloïse, le choix est à toi.
Ah non, mais dans ces cas-là, Je danse le Mia, enfin Angela, j'adore cette chanson, mais là j'ai envie de danser le Mia pour quitter l'émission, c'est
voilà.
plus fun.
C'est ça. Donc chers auditeurs, Héloïse et moi allons danser le Mia et on vous retrouve dans deux semaines sur Radio G pour Band Geek Mafia 101.5.
La radio qui fait le point.
Bonne soirée à tous chers auditeurs.
Bonne soirée, merci.
Jeff Fada, je crée des gueules, je vous prenne tous ici un par un.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé au pied du bras. Rayman sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS, Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps.